Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, cap sur le sujet des communautés avec Hugo Paul, explorateur et créateur du projet Into the Tribes, une exploration d'un an pour étudier les communautés apprenantes du monde afin d'accélérer la transition écologique et sociale. Ensemble, on discute de la mise en place d'un projet d'exploration aussi conséquent et de ses enseignements tirés de l'observation des communautés aussi diverses que passionnantes. Bonne écoute! Salut Hugo!
Salut Noémie!
Bienvenue dans The Storyline.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir. Ça fait quelques temps qu'on échange tous les deux sur plein de sujets et sur ton projet. Et tu m'as beaucoup aidée, notamment dans la réflexion autour de tout ce qui était préparation de la rédaction de mon livre. Alors, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager tes réflexions et ton aventure aux auditrices et aux auditeurs. Pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, et même pour toutes celles qui te connaissent déjà mais qui ont envie d'en savoir un peu plus, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené au sujet des communautés qui t'animent aujourd'hui, puis à Into the Tribes, qui est le projet que tu mènes?
Oui, avec plaisir. Déjà, je suis trop content de pouvoir échanger là avec toi aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'avoir une petite pause dans mon exploration pour commencer à partager mes apprentissages avec toi. Et donc, pour te dire un peu qui je suis en quelques mots, moi, j'ai grandi à Lille. Je commence toujours par ça parce que j'en suis plutôt fier. Donc, c'est important pour moi de le mentionner. Après donc avoir fait un bac S assez classique, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai été diplômé en 2022, donc il y a à peu près un an, donc c'est assez récent. Et c'était des études spécifiques sur l'informatique et la gestion de projet. C'est assez anecdotique dans mon parcours, puisque là où je pense que j'ai réellement appris, c'est au travers de mon engagement, puisqu'en parallèle de mes études, j'ai beaucoup mis mon énergie dans des organisations sociales et environnementales, et j'ai participé notamment à la transformation de l'enseignement supérieur, que ce soit à travers le format, mais aussi le contenu, pour y apporter beaucoup plus d'enjeux sociaux et environnementaux. Et ces années, pour moi, elles ont été extrêmement formatrices, car j'ai pu apprendre à mener des projets, coordonner des réseaux, mener un plaidoyer. Et ça m'a surtout permis de mieux me connaître moi, de savoir ce que je voulais faire. Et surtout, je pense, d'avoir en face de mes yeux la puissance des communautés. Voir en fait à quel point le fait d'agir ensemble, ça pouvait être un levier de transformation personnelle. En tout cas, pour moi, ça l'a été, et j'ai vu de nombreux copains, copines qui se sont réellement transformés et ont réellement grandi à travers de leur engagement collectif. Mais c'est aussi pour moi un levier de transformation sociétale, puisque en fait, les changements à l'échelle d'une société, ils se font qu'en groupe. Et donc, ça permet, lorsque là, on a des enjeux socio-environnementaux de plus en plus importants, d'aller y répondre au travers des communautés.
Carrément.
Et donc, au travers de cette notion-là de communauté, j'ai un peu réfléchi à comment on en animait, comment on pouvait cultiver ces communautés. Et au fur et à mesure de mes recherches et de mes expérimentations, je me suis rendu compte qu'une communauté, c'était, oui, un sacré levier à la fois sociétal et personnel, mais aussi, c'était très fragile. Et je pense que le nombre de communautés qui, au bout de quelques mois, quelques années, sont complètement essoufflées, et ça dans n'importe quel domaine, j'ai même pas assez de doigts pour les compter. Et je pense que là, aujourd'hui, il y a un vrai truc de comment on arrive à, dans ces communautés-là, créer de l'engagement sur du long terme et pas qu'elles s'essoufflent au bout de quelques mois. Et donc, avec cette idée en tête, en tout cas avec cette problématique, je pense que là, mon côté ingénieur s'est un peu activé et je me suis dit, ok, on a un système, une communauté qui aujourd'hui perd de l'énergie dans le temps. Donc, comment on fait pour qu'elle puisse garder cette énergie-là? Comment on fait pour qu'on arrête de toujours juste mettre de l'énergie de l'extérieur, que ce soit à travers des outils, que ce soit à travers des animateurs ou des animatrices de communauté, et comment on crée de l'énergie, on va dire, intérieure. Et en faisant des recherches, mais aussi en dialoguant pas mal avec des animateurs et des animatrices de communauté, je me suis rendu compte que l'apprentissage, c'était un vrai levier de création d'énergie, que ce soit de l'énergie qui soit créée par la communauté, pour la communauté, et d'avoir un peu avoir cette énergie circulaire au sein de la communauté. Et donc, ça a été mon sujet, un peu ma problématique, et je me suis dit, bon, bah maintenant, on va créer une exploration pour aller craquer ce sujet-là et voir comment on fait pour mieux apprendre ensemble au sein d'une communauté, donc comment on crée une communauté apprenante. Et ça a été la genèse du projet Into the Tribes.
Génial. Oh là là, quel pitch. On a tout de suite envie d'en savoir plus. Et bien compris que du coup, ce qui t'anime, c'est de comprendre. Et c'est vrai que c'est un secret bien gardé. Et on a hâte d'avoir les résultats de ton exploration et de savoir quels sont les éléments qui permettent d'auto-alimenter et de nourrir une communauté. Mais du coup, avant ça, peut-être, ce serait bien d'essayer de comprendre un peu plus en détail ce qu'est Into the Tribes aujourd'hui.
Ouais. Aujourd'hui, Into the Tribes, c'est une exploration sur les communautés apprenantes avec trois grands axes. Le premier axe, c'est d'explorer, où là, j'ai la chance de pouvoir m'immerger dans des communautés un peu partout en Europe pour réellement comprendre aujourd'hui comment elles fonctionnent, comment elles apprennent ensemble. Mmh. Et là, je mise vraiment sur la diversité des communautés. Je pourrais peut-être en parler un peu plus tard.
Carrément.
Le deuxième axe, c'est essaimer. C'est-à-dire que bah, une fois que j'ai, moi, vu ces outils, bah, comment je les partage aux acteurs de la transition. Aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable que ces outils-là, ils soient utiliser et même démultiplier au sein d'ONG, au sein d'associations, au sein d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Et enfin, le dernier point, c'est cultiver, puisque des outils, c'est bien, mais je pense que si tu fais un podcast et je te connais un peu, donc je pense qu'on partage ce côté-là, c'est que les outils, c'est bien, mais s'il n'y a pas un récit derrière, s'il n'y a pas des histoires à raconter, bah on perd la dimension transformatrice de ces outils. Et donc c'est pour ça que j'écris une newsletter où je partage mes apprentissages, et j'écris aussi un livre à côté pour partager le récit de mon expérience.
Magnifique. Et tu chroniques tout ça à tes heures perdues, un petit peu, si je dis pas de bêtises, à moins que tu aies lâché depuis, sur les réseaux sociaux?
Oui, c'est ça, notamment sur LinkedIn, où c'est là où je suis le plus actif.
Très bien, ok, génial. Donc vraiment, finalement, un média quasiment à part entière, un média d'exploration qui partage en temps réel toutes tes expériences. C'est incroyable.
Bah, ouais, merci. En fait, je pense que pourquoi un média, c'est vrai que j'avais pas mis le mot média dessus, mais peut-être que ma volonté, c'est j'ai la chance d'avoir cette année d'exploration où je peux voguer et sortir du carcan où souvent on se met lorsqu'on anime des communautés ou même quand on a une activité plus classique. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'ouvrir un peu des portes, voir les différents mondes. Et je pense qu'on a toutes et tous à apprendre des autres. Et donc, autant aller voir ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer et après, pourquoi pas collaborer.
Et partager tout ça, carrément. Et ben, on va revenir à ce sujet de la diversité des communautés que tu rencontres et que tu visites, etc. Mais avant ça, je voulais un peu te poser quelques petites questions qui sont plus centrées sur le marketing et la structuration de ton projet, puisque nous sommes dans un podcast qui parle de storytelling, aussi beaucoup de marketing. Ouais. Comment est-ce que tu as pensé le projet Into the Tribes à ses débuts? Comment est-ce que tu t'es organisé? Est-ce que tu t'es inspiré de choses existantes? Qu'est-ce qui t'a fait choisir le format de l'exploration, narrer, chroniquer, storyteller?
Donc le format de l'exploration, c'est plus parti d'un besoin personnel, où moi je sais que je suis quelqu'un un peu freestyle, et donc je crée un cadre pour pouvoir en sortir, et donc l'exploration, pour moi, ça m'allait bien. Ouais. Ensuite, une fois qu'il y avait ce sujet d'exploration, je pense que moi, plus j'apprends, plus j'ai envie de partager. Et du coup, je me suis dit, bah, comment le partager au mieux? Je suis pas un grand utilisateur des réseaux sociaux, on va dire de ma génération, que ce soit TikTok, Instagram. Donc, je me suis dit, je vais perdre trop de temps avec ces outils-là parce que comme j'ai pas les codes, je vais devoir apprendre les codes pour pouvoir ensuite les mettre en place. Donc, je me suis dit, quel code aujourd'hui j'ai pour au mieux les utiliser. LinkedIn, j'étais déjà assez actif, donc je me suis dit, autant utiliser cette activité-là pour continuer sur cette lancée. Et ensuite, en fait, je me suis découvert une vraie passion pour l'écriture. Avant, j'avais jamais pris le temps d'écrire, poser mes pensées, mettre un récit derrière. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aimais faire ça et que ça pouvait plaire. Et donc là, m'est venue l'idée de la newsletter, et c'est une personne qui m'a conseillé de avoir une newsletter à côté de mon LinkedIn, parce que c'est bien d'avoir le LinkedIn pour aller toucher des personnes que je ne connais pas forcément. Mais ensuite, moi, mon objectif maintenant, c'est une fois que ces personnes sont sur LinkedIn, de les faire aller vers ma newsletter, où c'est un peu ce safe place où je me sens beaucoup plus libre, moi, de à la fois partager mes émotions, mes réflexions, mes questionnements, alors que sur LinkedIn, je sais que j'ai un peu plus de mal à faire ça. Et en fait, je me sens de un mois plus safe dans cette newsletter et d'avoir une relation plus particulière. Et je pense que du coup, forcément, ça se ressent auprès des personnes qui lisent cette newsletter et qui du coup vont de leur côté, je pense, mieux prendre plus le temps de lire. C'est aussi des formats plus longs, donc c'est pas la même relation avec les personnes. Et à la fin, moi, mon but, c'est que les personnes puissent apprendre. Et je pense que sur un format long, on apprend plus parce qu'on se plonge plus dedans. Et donc, en tout cas, c'est ma notion de l'apprentissage. Elle ne va pas forcément en lien avec aujourd'hui tout ce qui se fait sur les shorts, les reels ou les choses comme ça. Mais en tout cas, c'est moi ma notion de l'apprentissage et donc je préfère partir sur cette notion-là.
Ouais, c'est marrant. En t'écoutant parler, je me disais que inconsciemment ou peut-être un peu consciemment, je ne sais pas, mais tu as vraiment finalement créé ce qu'on appelle communément un funnel marketing, ou en tout cas une approche assez structurée de la valorisation et de la promotion de tes contenus et des résultats de ton exploration, avec vraiment les réseaux sociaux en haut du funnel, donc du tunnel de découverte, où on va pouvoir te rencontrer au hasard de son scroll ou de sa connexion quotidienne sur LinkedIn. Et si on a envie d'aller plus loin et de s'exposer un peu plus à des apprentissages plus profonds, on peut s'inscrire à ta newsletter et on peut te suivre du coup de manière plus approfondie. Et en fait, je dis ça parce qu'avec The Storyline, j'ai fait un peu la même chose. Finalement, les réseaux sociaux sont une porte d'entrée intéressante pour se faire connaître et remarquer, mais ce n'est pas la meilleure stratégie, en tout cas c'est ma conviction, pour fidéliser, pour créer un lien dans la durée et pour aller dans la profondeur dans les sujets qu'on aborde. Parce que sur un post ou sur un réel, comme tu disais, ou un reel, je ne sais toujours pas comment on dit, c'est difficile de creuser et d'aller au fond des choses. Et du coup, je suis comme toi, la newsletter me permet vraiment d'aller approfondir, explorer des idées et vraiment digresser et écrire des pavés. Tu les connais vu que tu les lis. Sur des sujets fascinants. Merci. Mais bref, je faisais ce petit aparté parce que je trouve ça vraiment important de penser sa stratégie de communication comme un entonnoir et de se dire que les réseaux sociaux sont très bien et qu'il ne faut pas faire l'impasse dessus, mais que c'est hyper important d'alimenter et ensuite d'avoir quelque chose en bas de l'entonnoir qui soit vraiment qualitatif et qui permette aux gens d'aller plus loin dans la relation avec toi et tes idées.
Ouais, et c'est... Donc, je ne connaissais pas ce final, donc merci de m'apprendre la théorie derrière ce que je fais de manière un peu avec l'intuition. Mais moi, je pense qu'en bas de mon... De ce funnel-là, de cet entonnoir. En fait, j'ai aussi des groupes WhatsApp que j'ai créés avec en fait, les personnes, soit de l'écosystème, soit des personnes que je trouvais inspirantes et que je connaissais pour en fait, créer plus d'échanges. Parce que pareil, sur les newsletters, bon, ça reste un truc assez top-down. Et donc, ces groupes WhatsApp-là, pour moi, c'est vraiment une sorte de communauté en tant que telle. Et du coup, j'ai créé plein de petites communautés et je me rends compte que dans mes immersions, parfois, quand je viens de finir deux mois en Laponie ou mon chez-moi me manque un peu, je suis très content de pouvoir mettre un petit post, mettre une petite photo et d'avoir leur message. Donc, je pense que la fin de cet entonnoir-là, c'est peut-être ces groupes WhatsApp.
Trop bien. Complètement, c'est exactement ça. En fait, finalement, ça nous ramène au sujet de la communauté et on y reviendra rapidement. Mais à mon sens, aujourd'hui, que ce soit pour un projet de média comme le tien, en tout cas de partage de connaissances et d'exploration qui est à but non lucratif, théoriquement, tu me diras si ce n'est pas le cas, ou dans le cadre d'une stratégie d'entreprise, la finalité, c'est de démultiplier les interactions qu'on va avoir avec ses consommateurs et que les consommateurs vont avoir entre eux, ou les consommateurs ou les prospects ou les lecteurs ou les auditeurs, puisque c'est ça finalement qui va permettre de créer de la confiance et un lien vraiment dans la durée qui va permettre que les gens reviennent et continuent de consulter tes contenus, t'apportent des opportunités, etc., etc.
Oui, oui.
Et donc, toi, c'est la fonctionnalité finalement de ces groupes WhatsApp, j'imagine. C'est des créateurs d'opportunités, enfin des machines à créer de l'opportunité à l'échelle.
Ouais, c'est vrai que je les avais pas vus comme ça, mais ouais.
Je théorise. Et du coup, autre question par rapport à ce projet, avant de parler du sujet communautaire. Comment est-ce que tu as réussi à le faire financer, à le monétiser? Comment s'organise aujourd'hui finalement le sponsoring, pardon, j'imagine, c'est ce que tu as mis en place pour pouvoir faire cette exploration?
Ouais, alors c'est une exploration en one shot. Hein. Pour moi, c'est vraiment un projet sur un an. Donc, je pense que par rapport à la motivation de ce qui se fait d'habitude, c'est un peu différent. Et donc, je suis principalement allé chercher des dons. Donc, il y a eu un crowdfunding qui a été lancé, qui m'a permis de financer une bonne partie de l'exploration. Ensuite, il y a une partie de mécénat. Là, c'est pas du sponsoring. C'est des personnes qui sont intéressées par le projet et qui croient à la fois en ce qui va en sortir et je pense aussi à moi aussi, mon propre développement, puisque quand c'est un projet d'une seule personne, c'est fortement, enfin, le projet et la personne sont fortement liés. Et enfin, le dernier point, c'est des missions que je fais pour les entreprises où là, aujourd'hui, les communautés, les apprentissages dans les communautés, c'est une vraie question pour les entreprises. Et donc, moi, je leur apporte du contenu, que ce soit au travers d'articles ou de conférences.
Ok, génial. Du coup, qui est quand même une activité assez, assez répandue. Petite dédicace à Samuel Durand, qui lui est plutôt positionné sur les documentaires que tu connais aussi, sur le futur du travail, et qui est également justement... pas mal lancé dans les conférences pour permettre à ses documentaires et à ses explorations à lui de vivre.
Oui,
et je trouve que c'est une belle manière de faire un lien entre... Oh, pardon, dis-moi. Vas-y, je te laisse réagir.
Oui, je pense que j'allais continuer ta phrase qui était... pour moi, c'est un formidable moyen de... Une fois que tu donnes tes outils, en fait, t'as envie qu'ils soient bien utilisés. Et que ce soit sur la notion du travail, sur la notion des communautés, il y a aussi, en tout cas pour moi, vraiment cette notion de... aller partager ces contenus en personne pour au travers de conférences, voire même d'ateliers / formations, pour que ces outils-là soient les mieux utilisés. Après, en fonction du temps, on ne peut pas faire que des formations et des conférences, mais c'est en tout cas un aspect qui est pour moi assez important.
Hyper intéressant, en tout cas, parce que je sais que j'ai l'esprit très axé marketing et storytelling, mais je trouve ça vraiment... intéressant d'utiliser un format aussi conséquent, aussi engageant et aussi fort que l'exploration sur un an, que tu vas utiliser comme levier de valorisation et qui va te permettre à côté de créer des produits et des services, entre guillemets. Et je sais que ce n'est pas une finalité pour toi et que c'est un one shot, mais en tout cas, je pense que les auditrices et les auditeurs, s'ils ont des projets d'exploration ou de création de contenu conséquent, peuvent s'en inspirer. C'est bien de ne pas directement vouloir monétiser un truc à travers du sponsoring, par exemple, ou bien de l'affiliation ou du marketing publicitaire, mais plutôt de l'utiliser comme un levier qui va faire rayonner ton expertise et que tu vas pouvoir utiliser ensuite pour vendre des prestations un peu plus conséquentes comme des formations ou des interventions, etc.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et j'avoue que ça a été pour moi parfois assez difficile de me dire « Non, cette année, je la focus sur l'exploration. » De temps en temps, je mets bien sûr un peu d'énergie sur la communication, sur des moments de partage ou de mission avec des entreprises, des organisations, des assos. Mais je passe au moins 80% de mon temps à juste explorer, à engranger du contenu. Donc forcément, il faut avoir cette liberté-là parce qu'il y a peu d'entrées financières. Mais je sais très bien que tout ce que j'engrange aujourd'hui permettra de mieux le valoriser demain et que... puisque ces questions financières sont quand même posées, même si je suis dans une thématique où, enfin, en tout cas, ma volonté première est de servir l'écosystème de l'écologie et du social, je dois quand même vivre. Et donc, du coup, je me posais ces questions-là et je me suis dit, en fait, si je vends quelque chose en début d'exploration ou ce que je vends en fin d'exploration, alors que je vais mettre le même temps, ce temps-là va être beaucoup plus facturé, de manière beaucoup plus haute à la fin d'exploration qu'en début.
Donc,
c'est juste une question de patience et de long terme plutôt que de me focaliser sur le court terme.
On aime ça, les jeux sur le long terme, c'est ce qu'on défend dans ce podcast. Trop bien. Et tu parlais justement des 80% de temps passé à t'imprégner, à absorber, à observer. C'est une question qu'on se pose souvent, moi-même et je pense pas mal d'auditeurs ou d'auditrices avec qui j'ai l'occasion d'échanger. comment tu passes de l'observation et des idées à... En fait, déjà, de l'observation à des idées, des vérités, alors universelles, entre guillemets, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas des enseignements que tu vas retranscrire. Et la question derrière ça, c'est en gros, comment tu passes de l'analyse de l'observation et des idées à des contenus finis qui sont uniques, qui représentent tes opinions et qui sont originaux.
Je pense qu'il y a un triptyque dans mon approche. Le premier axe de ce triptyque, c'est vivre les choses. Je me mets en mode avion et je pars loin et j'ai besoin de sentir que ce que je vis, c'est à un moment T et m'imprégner le plus possible de ce qui se passe au sein de la communauté. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est après, ça je pense que c'est peut-être mon côté un peu intello, j'aime beaucoup lire et donc j'ai besoin de tout théoriser, et sauf que on n'a pas toutes les théories dans notre tête et il y a déjà des super experts et expertes qui ont travaillé sur le sujet, donc j'aime bien voir ce que moi j'ai vécu sur le terrain, comment je le relie à des choses qui soient théorisées, et en fait je me rends compte que certaines intuitions elles deviennent plus fortes une fois que j'ai la confirmation d'un expert ou d'un experte. Et enfin, le dernier point, c'est que moi, je marche beaucoup à l'apprentissage entre pairs et j'ai besoin d'être alimenté par des personnes, donc de prendre soit des appels, soit des cafés, soit des dîners. Et le top du top, moi, c'est juste de partir genre 3-4 jours, une semaine avec une personne qui m'inspire pour mettre en confrontation ce que moi j'engrange, ce que moi j'ai lu avec lui ou elle, sa vision, pour avoir différents axes, parce que je sais très bien que j'ai mes billets et que ce que j'ai lu, c'est des choses que j'aime bien lire, et donc d'avoir d'autres axes, ça me permet d'avoir aussi un autre angle et soit apporter un autre regard sur ce que j'écris, soit aussi dire bon ce que j'écris, c'est dans cet axe là dans cette vision, mais sachez qu'il existe aussi d'autres angles, parce que tu parlais de vérité universelle, moi je pense qu'il n'y a pas de vérité universelle et j'admets le fait que ce que j'écris, c'est toujours avec mon histoire, ma culture, et que les personnes qui vont lire souvent via les super algos qu'on a, c'est des personnes qui me ressemblent quand même, et que il faut l'accepter, et qu'il y a aussi d'autres visions de voir le monde, et que toutes doivent cohabiter et en tout cas en avoir confiance.
Il faut les intégrer, oui bien sûr. Oui, génial, sacré programme, génial d'avoir cette démarche de t'exposer à d'autres points de vue, mais aussi de challenger tes idées auprès de personnes qui t'inspirent. Ça t'arrive du coup de rencontrer des gens et spontanément de leur proposer des moments comme ça, des gens, parce que c'est pas simple à proposer, c'est pas simple à mettre en place forcément. Les gens n'ont pas forcément toujours le temps à allouer à ou la même vision des choses. Tu fais ça beaucoup ?
J'essaye au maximum de le faire. Après, en effet, c'est pas facile et ça dépend des personnes en fonction de leur contexte, leur vie actuelle. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être en exploration, donc mon agenda, je peux facilement l'arranger pour. Donc, on va dire que je me mets aujourd'hui dans une posture la plus flexible possible pour pouvoir rencontrer ces personnes. Mais
carrément.
Je pense que mon objectif, parce que avant de faire cette exploration-là, j'estimais aussi que je faisais quand même pas mal d'explorations au travers de mes études, où je me prenais du temps un peu en dehors de ce temps-là, justement hors du temps, pour rencontrer des personnes. Et je pense que le plus important, c'est de vivre des expériences avec elles. Parce que moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup et que j'ai lu dans un livre qui s'appelle The Art of Gathering, qui est un peu une bible pour les personnes qui aiment créer des événements. Et dedans, Priya Parker, donc, qui est l'autrice, explique qu'entre avoir 3 fois 2 heures de son temps avec une personne ou avoir 1 fois 6 heures, ça change complètement la donne, parce que en fait, au bout de 2 heures, on a un peu passé en revue tous les sujets un peu bateaux de pourquoi on se rassemble, comment vas-tu, quel est ton contexte, etc. Et on rentre au bout, après 2 heures, 2 heures et demie, dans les sujets un peu plus intenses, un peu plus profonds. Et c'est là où on peut vraiment créer un lien authentique avec la personne. Et moi, c'est ce que je cherchais dans les expériences. Donc, c'est de vivre des expériences avec les personnes pour réellement les comprendre et créer une relation qui soit la plus authentique et donc pour moi la plus apprenante.
C'est passionnant. C'est passionnant et du coup, ça nous permet de rebondir sur le sujet justement des communautés apprenantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette typologie de communauté et de celle que tu as rejointe pour cette première partie de ton exploration, chez qui tu es allée et quelle est la diversité dont tu parlais dans ces communautés ?
Donc, peut-être un petit pas avertissement, mais un petit contexte de cette exploration, c'est que moi, ma volonté, c'était in fine de servir la transition écologique et sociale, mais de sortir de ce carcan-là, dans lequel j'étais, où je connaissais très bien les communautés et leurs outils, pour me dire, bon, bah, en fait, je suis en exploration, je vais voir un peu cette terra incognita, voir ce qui se passe ailleurs, pour créer des échanges, des partages entre ces différentes cultures, ces différentes communautés. Donc, j'ai structuré mon exploration en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est le retour aux sources, donc les apprentissages ancestraux. En fait, je me suis dit, on fait quand même communauté depuis la nuit des temps. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, les communautés qui existent depuis des millénaires ont à nous apprendre aujourd'hui sur cette manière de faire communauté? Ensuite, le deuxième chapitre, et là, je suis en plein dedans en ce moment, c'est que j'ai appelé « Au-delà des frontières » et qui est, en gros, toutes les innovations pédagogiques, communautaires, qui se fait en dehors de l'école. Donc là, moi, je viens de monter sur un paquebot, par exemple, où pendant 4 jours, ils ont rassemblé plein de chefs d'entreprise, des jeunes engagés, des experts du GIEC, donc des experts scientifiques sur le dérèglement climatique, pour les faire bosser ensemble et se dire comment on arrive à transformer les entreprises. Bon, tout n'est pas à prendre, notamment cette notion de paquebot pour parler de transition écologique, ça peut poser des questions, mais moi, j'y vais en tout cas avec un œil neuf, avec un œil où je me dis, je m'enlève tous les a priori que je peux avoir sur ce monde-là et je vais explorer. Et enfin, donc, pardon, j'ai un peu digressé, mais ce troisième chapitre, c'est Former pour demain. Et ce troisième chapitre a pour objectif de voir un peu les écoles alternatives pour former aux enjeux écologiques et sociaux. Se demander, en fait, si demain on doit recréer des formations, des écoles pour nous former aux enjeux de la transition écologique et sociale, quel serait le format, quel serait le contenu? Et donc là, je vais aller voir plein d'initiatives différentes, notamment une école dans la forêt en Espagne. Pendant un mois, je vais un peu aller chercher comment cette communauté peut vivre ensemble, apprendre ensemble et surtout apprendre à ses enfants à vivre dans un monde en pleine transition.
C'est trop bien, ça donne trop envie. Et donc, dans ces chapitres, est-ce que tu peux nous parler un peu des communes, enfin, dans le premier chapitre plutôt, pardon, est-ce que tu peux nous parler des communautés que tu as rencontrées?
Ouais, avec plaisir. Je mets toujours un énorme smile. Là, on ne peut pas le voir parce que j'ai l'audio, mais j'ai un énorme smile.
On l'entend.
Il y a tous les souvenirs qui me remontent parce que c'est des expériences assez atypiques. J'ai passé un mois au sein d'un monastère qui s'appelle l'abbaye de Lérins, dans le sud de la France, où là, mon objectif, c'était d'aller comprendre aujourd'hui comment les moines vivent ensemble, apprennent ensemble. C'est quand même des moines qui sont sur cette île qui leur appartient. Ils sont 20 à vivre sur une île depuis le 4e siècle. Et donc, je me suis dit, waouh, en termes de communauté, je pense qu'ils ont pas mal de choses à nous apprendre. Ensuite, je suis parti dans une retraite en silence, dans une communauté bouddhiste qui s'appelle Vipassana, où là, pendant 10 jours, je me suis assis de 4h jusqu'à 22h pour méditer et vivre ce rite initiatique. Là, j'ai quand même eu pas mal d'outils. Au-delà de la transformation personnelle, j'ai eu pas mal d'outils de comment aujourd'hui on peut créer une culture commune, un sentiment d'appartenance au travers d'une expérience qui soit transformatrice.
Sans parler.
Et peut-être la troisième communauté que j'ai faite dans ce chapitre, c'est les Samis. Les Samis qui sont le dernier peuple autochtone d'Europe. On s'est vu juste après mon retour de cette expérience-là. Et là, en fait, pendant 2 mois, j'ai pu comprendre comment ce peuple qui quand même date de plusieurs milliers d'années a aujourd'hui gardé sa culture et essaye de la préserver au travers de cette occidentalisation, pardon, de cette assimilation aussi qu'on a, et donc comment on défend nos droits en tant que communauté, comment on la transmet de génération en génération. Et c'était passionnant, au-delà d'être aussi super des paysans.
C'est génial tout ce que tu nous partages, parce que finalement, en fait, ces sujets, la cohésion et la création d'une dynamique communautaire par l'expérience, la préservation de la singularité et de la culture, de l'unicité culturelle, l'autonomie et l'indépendance à travers la communauté, enfin en tout cas la résilience, c'est des sujets finalement qui sont essentiels d'un point de vue individuel et sociétal. Mais je vais mettre ma casquette marketing et entreprise à nouveau. C'est aussi finalement des sujets qui sont de plus en plus importants pour les entreprises, auxquelles elles commencent à s'intéresser à travers des leviers comme la RSE, la raison d'être, des modèles économiques innovants. Est-ce que tu penses que la stratégie communautaire, je sais que c'est une question rhétorique parce que je défends ce point de vue, mais en tout cas, l'approche communautaire et surtout du point de vue des communautés apprenantes a sa place dans les stratégies des entreprises ou dans leurs considérations ?
C'est une question qui m'a pas mal chamboulé parce que c'est une question que tu m'as déjà posée et avec laquelle on avait pas mal discuté. Et en fait, après plusieurs détours, je pense que oui. Oui, parce que en fait, une entreprise, aujourd'hui, c'est quand même un collectif, des personnes qui se rassemblent pour avoir un objectif commun. Donc, de fait, c'est une communauté. Mmh. Ensuite, maintenant, la question se pose de, on passe quand même, il y a différents chiffres, entre 80 000 et 100 000 heures de nos vies dans une entreprise, enfin, en tout cas à travailler, donc, pour la plupart aujourd'hui en tant que salarié, donc dans une entreprise. Et donc là, je me dis, quand on passe tout ce temps-là, comment on fait de tout ce temps-là en collectif un moment qui soit transformateur à la fois pour la personne, mais aussi à la fois pour la communauté. Donc c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, mettre ces dynamiques communautaires apprenantes, c'est assez indispensable en fait, tout simplement pour les personnes. Et puis ensuite, si demain, je me mets à la place d'un responsable RSE ou même d'un PDG, aujourd'hui le monde, il bouge énormément. On a du mal à savoir quels seront les enjeux de demain et il faut savoir être extrêmement attentif à ce qui se passe et extrêmement résilient aux nouveaux enjeux. Et donc aujourd'hui, ça ne fonctionne plus de se dire « Ah bah, on sait que dans 10 ans, il y aura le sujet de l'informatique ou le sujet de l'IA sur lesquels on va vouloir se mettre et donc du coup, on va faire des formations et dans 10 ans, on sera prêt. » Aujourd'hui, c'est plus qu'à… Donc, comment on fait pour apprendre from scratch ? Donc, comment on fait pour apprendre au travers des communautés, au travers du terrain ? Et pour moi, aujourd'hui, les communautés apprenantes sont un vrai levier. Et je pense que pas mal d'entreprises l'ont bien compris et commencent à mettre aujourd'hui leur énergie sur le sujet. Maintenant, il y a un sacré sujet. Une communauté, c'est avant tout un environnement. Se développe dans un environnement. Et aujourd'hui, est-ce que l'environnement en tant que tel de l'entreprise permet à ces communautés de réellement se cultiver ? Ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'on ne pourra pas dissocier l'un sans l'autre.
C'est hyper intéressant. Et ça me fait penser à ce mot que tu as employé, que j'aime beaucoup, qui est « d'essaimer ». Et finalement, de ne plus essayer de créer des stratégies long terme dans une tour d'ivoire, mais plutôt de s'appuyer sur tout un collectif pour pouvoir prendre des décisions et avancer et créer finalement de la résilience dans un contexte qui est de plus en plus incertain. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Et je me demandais par rapport à tes explorations, alors il est sûrement encore un petit peu tôt et on n'en est qu'au deuxième chapitre, mais est-ce que tu identifies déjà quand même des grandes dynamiques, des leviers, des ingrédients entre guillemets qui font le succès d'une ou plusieurs communautés que tu as pu observer ? Des choses, par exemple, qu'elles ont en commun ou pas, au contraire ?
Oui, l'une des choses qui m'a le plus marqué, et plus un peu chamboulé, moi qui adore la coopération, le fait qu'on travaille tous main dans la main, pour autant, pour moi, les communautés qui fonctionnent, c'est des communautés qui ont des frontières super bien établies. C'est-à-dire que, en fait, on sait très bien si tu appartiens ou non à une communauté, et chaque personne ne peut pas rentrer comme elle le souhaite au sein de la communauté. Parce qu'en fait, une communauté aujourd'hui, c'est un organisme vivant et ça a un équilibre. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre ou qui sort, ça déstabilise cet équilibre. Et donc, moi, les communautés que j'ai vues les plus résilientes et les plus durables dans le temps, c'est celles qui ont su vraiment créer des frontières bien établies. Mais pour autant, et c'est là toute la subtilité, c'est des communautés qui ont aussi su manager par eux-mêmes leur propre porosité, c'est-à-dire qu'ils arrivent à créer des espaces où elles ne restent pas enfermées entre elles et elles arrivent à aller voir le monde, ce qui se passe, à créer des échanges entre elles, mais elles sont restées maîtres de cet échange-là avec le monde. Et notamment, moi, je pense directement au monastère où dans le cloître, c'est extrêmement fermé. On ne rentre pas comme on veut dans le cloître. Et si on n'est pas moine, on ne rentre pas. Oui. Par contre, à côté, ils ont leur île, ils créent des événements autour où toutes les personnes, qu'elles soient religieuses ou non, peuvent venir. Et j'étais extrêmement épaté par le nombre de collaborations, le nombre de partenariats qu'ils font avec des organisations, qu'elles soient religieuses ou non, et qui leur permet en fait d'avoir une vision du monde qui est pour moi extrêmement inspirante. Et alors que sincèrement, je ne suis absolument pas religieux et je ne suis pas croyant, et pour autant, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aujourd'hui des moines. Donc c'était un peu mon grand apprentissage sur ça.
Ah, super intéressant. Donc vraiment, créer des manières de renforcer un sentiment, d'exprimer, de renforcer un sentiment d'appartenance fort, sans pour autant s'enfermer dans des dogmes, entre guillemets, en tout cas une vision du monde ou une voie unique, quoi.
Ouais, oui. Et pour le coup, ça demande beaucoup, beaucoup d'apprenance, en fait, parce qu'il faut avoir un processus réflexif où forcément, bah, comme tout équilibre, à un moment, on va être plus dans l'entre-soi, parfois trop ouvert à l'extérieur. Et ça, il y a, je pense, c'est un peu la problématique de chaque collectif, qu'elle soit dite ou non dite, mais c'est cette relation, le curseur qu'on place entre être entre nous et s'ouvrir à l'extérieur.
Yes, bien noté. Et c'est quelque chose qu'on peut moduler, j'imagine, au fur et à mesure, avec l'évolution de sa communauté et en fonction de la nature de ses membres.
Oui, oui, bien sûr. Et de toute façon, une communauté, ça vit, c'est un organisme vivant. Et donc, du coup, il faut la structurer, la cultiver en fonction des besoins et à la fois des besoins internes de ses membres, mais aussi des besoins de son environnement. Oui. Et donc, du coup, des communautés qui l'entourent et plus globalement du système dans lequel elle est.
Intéressant. Donc, avoir vraiment une vision intérieure-extérieure. Mais cet organisme vivant qui évolue, qu'est-ce qu'il nourrit? Qu'est-ce qui va alimenter le sentiment d'appartenance selon toi?
Pour moi, il y a cette notion, on appelle ça pouvoir d'agir en français, qui est l'agency en anglais, que je trouve plus percutant. Et c'est la possibilité des membres de pouvoir de se sentir compté dans le développement de la communauté et de qu'importe la place que la personne a dans la communauté, qu'importe l'énergie qu'elle met, elle sent que cette énergie-là, elle compte et elle fait avancer la communauté. Et pour moi, ça, c'est clé. Et c'est alors un casse-tête, je pense, pour toutes les personnes qui animent des communautés. C'est comment on fait pour que Jeannette qui passe une heure dans la communauté ou Christophe qui passe 50 heures par semaine se sentent autant appartenir à la communauté, autant valorisé par les personnes. Et pour autant, intrinsèquement, comme ces personnes ne donnent pas le même nombre de temps, ben, on ne peut pas avoir la même relation avec ces personnes-là. Pour autant, elles doivent se sentir comptées et sentir que ce qu'elles font ont du sens pour la communauté et la fait avancer et que ce n'est pas simplement les personnes qui vont arroser les plantes de manière un peu illustrative. Quoi, mais il y a ce côté-là.
Je vois, oui. Ok, et est-ce qu'il y a des leviers pour renforcer ce sentiment ou cette situation, cette posture d'agency qui sont généralisées dans l'art d'animer et de fédérer des communautés?
Dans les outils très concrets, il y a savoir bien connaître ses membres. Donc, du coup, on peut faire des personae, etc. Donc là, c'est en plus dans le technique de comment aujourd'hui animer des communautés. Après, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'humains derrière tout ça et qu'aujourd'hui, il faut juste bien connaître ses membres et passer du temps en one-to-one avec les personnes. Et une notion que j'ai découverte, c'est une communauté qui s'appelle le bruit qui court, qui aujourd'hui crée de l'engagement au travers de l'art et de l'art au travers de l'engagement. C'est une super communauté. Et ils ont créé ce qu'ils appellent des petits jardins. Donc, déjà, j'ai trouvé le nom assez sympa. Et un jardin, c'est que lorsqu'une personne rentre dans la communauté, elle a un petit jardin avec une nouvelle personne et deux anciennes personnes de la communauté dans laquelle ils vont pouvoir partager leurs besoins, l'historique de la communauté. Et donc là déjà, il y a un sentiment d'appartenance très fort, mais il y a aussi ce sentiment d'agency parce qu'en fait, moi, quand j'arrive dans une communauté où il y a 100-150 personnes, je suis trop content quand il y a juste une ou deux personnes qui viennent me voir et qui me mettent dans cette safe place où je me sens à l'aise, je commence à mieux comprendre les codes parce que je peux plus facilement comprendre la communauté via une ou deux personnes que via 150 personnes. C'est pour moi une première étape, un premier outil très concret que j'ai bien aimé au travers de cette communauté, donc le bruit qui court et ces petits jardins.
C'est une super fonction dont on ne parle pas forcément beaucoup. On parle beaucoup des ambassadeurs dans le cadre des stratégies communautaires, mais on parle très peu des rôles internes à la communauté et notamment de ceux des jardiniers dans le cas de ce beau projet, mais qu'on peut appeler aussi les gatekeepers ou les accueillants, enfin les hosts, etc., qui sont finalement des membres qui ne vont pas forcément rayonner ou faire rayonner la communauté en externe, mais qui vont contribuer à son bon fonctionnement et à son épanouissement en interne. Et ça, c'est un truc, d'ailleurs, petite minute pub, dont je parle dans mon livre qui sort à la rentrée, et qui est vraiment hyper important et très sous-côté, je trouve, de s'assurer que chacun ait sa place, trouve sa place et choisisse son rôle et s'implique à la hauteur de ses capacités, de ses envies. Et du coup, trouver une place pour tout le monde, ça, c'est vraiment génial et ça rejoint cette notion d'écosystème et d'organisme vivant dans lequel chaque cellule, entre guillemets, a une fonction précise.
Ouais, exactement. C'est très beau.
Enfin, je ne sais pas si c'est beau ou si c'est bizarre, je ne suis pas sûre, mais, ouais. Mais on aime. Et bah, écoute, c'est une belle conclusion. Je ne sais pas si tu as peut-être un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer et créer leur propre communauté. S'il y avait une chose à garder en tête, peut-être, ce serait quoi ?
Je pense que gérer une communauté, c'est comme tout projet. Pour moi, il y a un triptyque de s'équiper avec quelques outils, en fait. Comme quand on part en exploration, on ne part pas juste avec son sac à dos, on met des choses dans son sac à dos, donc je pense que c'est utile. La deuxième, c'est de s'entourer avec des personnes qui ont cette expérience-là et de ne pas se sentir seul, parce que quand on anime une communauté, des fois on est trop dans le high, ça marche super bien, on sent qu'on avance et qu'il y a de l'émulsion, et donc c'est chouette, mais il y a aussi des moments de down où là ça avance pas, et donc être avec des personnes qui ont connu ces high et ces down, en fait c'est juste génial. Donc petite promo pour le club des communautés de Make Sense que j'adore et où je trouve que de rassembler les différentes personnes qui animent des communautés, c'est assez incroyable. Et enfin le dernier point, c'est juste aussi de tester, qui est en fait aujourd'hui, une fois qu'on a des outils et qu'on a des personnes qui nous entourent, juste on teste, on apprend en faisant, et au pire on aura appris et au mieux on aura créé une communauté de ouf. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi de tester qui est hyper important.
Génial, merci pour ce deuxième triptyque, décidément, qui était très très informatif et comme toujours de bons conseils. Merci beaucoup Hugo pour tout ça et puis bon courage pour la suite de l'exploration, on a hâte de voir le livre.
Ouais, merci Noémie, et moi j'ai trop hâte de lire ton livre, je pense qu'il y aura des sacrées pépites dedans.
On fera un petit partage, mais en tout cas je tiendrai les auditrices et les auditeurs informés de la sortie du tien et du mien bien évidemment.
Génial.
Salut Hugo.
Salut Noémie.
Alors, qu'avez-vous pensé du témoignage d'Hugo ? J'ai beaucoup aimé sa vision des leviers de l'engagement communautaire et surtout l'idée qui consiste à créer les conditions pour chaque membre de trouver sa capacité d'agir ou agency. Autrement dit, de trouver son rôle et sa place au sein de sa communauté. À vous de jouer pour trouver les leviers qui peuvent amener les membres de la vôtre à s'y engager. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans The Storyline.